sur le bateau d'Ulysse. Aujourd'hui, démocratie et tirage au sort, avec Laurent Henry et Philippe-Alexandre Pouille. Le mot démocratie fait partie de notre vocabulaire politique, il désigne notamment notre régime de gouvernement. Tout le monde n'est pas démocrate, mais ceux qui le sont revendiquent la démocratie. Ils la défendent là où elle est menacée, ils cherchent à la faire avancer là où elle n'existe pas. Dans une série qui interroge notre héritage grec et ce qu'il en reste, il était inévitable de rappeler l'origine grecque de la démocratie et d'établir si ce que nous entendons par ce mot a quelque chose à voir avec le sens que lui donnaient les anciens Grecs et en particulier les Athéniens. J'avais été intrigué par un article intitulé « L'élection organise une aristocratie » paru dans les pages rebonds du journal Libération dans lequel les auteurs mettaient en avant ce qui séparait nos démocraties de celles des Grecs. Ces deux auteurs sont avec nous aujourd'hui, il s'agit de Laurent Henry et de Philippe-Alexandre Pouille, et je pensais rencontrer en fait deux juristes ou deux historiens ou peut-être des gens de Sciences Po. Or, vous m'avez donné rendez-vous à l'Institut Curie où se trouve votre laboratoire. Vous êtes certes chercheur en démocratie, mais aussi vous êtes physicien. Alors, est-ce que, quand vous étiez étudiant, est-ce que vous étiez dans un syndicat? Est-ce que vous êtes proche d'un parti politique? D'où vous vient ce besoin de sonder les sources de la démocratie, Laurent Henry?
Donc, quand j'étais étudiant, je n'ai jamais été rattaché à aucun parti politique. La question s'était posée, mais finalement, non. Et pareil, pour ne pas syndicaliser non plus. Quand on s'est rencontré avec Philippe, on a commencé à parler de politique. Et beaucoup, comme beaucoup de gens, on cherchait une manière de s'organiser, et bon, on a lu l'histoire et en fait quand on a découvert l'organisation démocratique athénienne, c'était pas une lumière, mais il nous a semblé qu'il y avait peut-être des enseignements pratiques à en tirer, voilà. Donc c'est un peu l'origine.
Parce qu'il y a aussi certains livres qui arrivent au bon moment, hein. Ils répondent à une attente, et c'est le cas de cette magistrale étude de la démocratie athénienne que vous devez à un auteur danois, Philippe-Alexandre Pouille. Je crois que c'est un ouvrage qui a été important pour vous.
C'est ça, ça n'a pas été le premier, hein. Il y a eu d'abord Manin, Bernard Manin, c'est sur le gouvernement représentatif, sauf qu'il reprend dans la première partie de son livre quel est le fonctionnement de la démocratie athénienne, mais lui-même cite énormément le livre de Hansen, donc on a naturellement été chercher à lire ce livre-là, on l'a lu. Et oui, c'était à la fois par ces lectures de livres qui arrivaient là et la rencontre avec Laurent Henry qui nous permettait de discuter presque tous les jours de ce qu'on lisait, de ce que ça nous disait, de la situation politique aujourd'hui.
De toute façon, Hansen a écrit une somme, c'est en 6 volumes son ouvrage en danois. Et donc en France, on a publié en fait une sorte de synthèse que lui-même avait rédigée d'abord en anglais, je crois.
Voilà, oui.
Oui. Ça a été publié en anglais en 91 et traduit en français en 93, c'est publié aux belles lettres. Et je dirais que c'est la connaissance qu'on a du régime athénien par les historiens modernes, on l'a depuis la compréhension cohérente du système politique, on l'a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est très très récent et c'est accessible à tous les citoyens français depuis 93, donc c'est très récent.
Mais la démocratie athénienne, on la connaît surtout comme celle du 5e siècle, de l'époque de Périclès, qui est une apogée, et c'est d'ailleurs aussi un impérialisme. Or, l'ouvrage de Hansen interroge plutôt le 4e siècle.
Hein. Oui, il y a d'un côté la Grèce puissante, celle du 5e siècle, mais avec la disparition de Périclès, la forme que la démocratie avait va aboutir à l'apparition des sophistes, les choses vont devenir chaotiques et vont aboutir donc à la défaite face à Sparte et aux révolutions oligarchiques. Et après les deux révolutions oligarchiques, les Athéniens remettent en place la démocratie, mais veulent comprendre pourquoi ça s'est mal passé avant, et vont transformer leur démocratie. Ça va continuer à être une démocratie complète, certains diraient radicale, mais ils vont aussi en faire un état de droit. Ils vont insister sur la différence entre des lois et des décrets. L'Assemblée du peuple va se défaire de la possibilité de voter des lois, va mettre en place une autre procédure pour faire des lois. Donc ils vont déjà mettre en place la séparation des pouvoirs.
Et pour vous, il s'agissait surtout de désenfuir les idées erronées qui ont cours sur la démocratie et qui, par exemple, prétendent expliquer le passage de la démocratie directe à la démocratie indirecte.
Alors, oui, là, c'est un point important. Alors, bon, je voudrais juste rappeler qu'en fait, ce que c'est une démocratie, il y a une lutte autour du sens de ce mot, évidemment. C'est un mot fort et beaucoup de gens se réclament démocrates et donc peuvent défendre des définitions très différentes de la démocratie. Alors, pour y voir un peu plus clair, on pourrait rappeler d'abord les traits fondamentaux de la démocratie telle que la pratiquer, c'est le mot pratique est important, la pratiquer les Athéniens. Les outils de base étaient le tirage au sort pour désigner les différentes magistratures, la rotation des charges et l'impossibilité d'exercer plusieurs fois la même charge. Le tirage au sort était un outil anti-corruption, c'est très important. Il était explicitement utilisé pour prévenir la corruption. Il pouvait servir à désigner par exemple les jurés lors de procès. Donc ça, c'est la démocratie athénienne. Bon, c'est une démocratie d'assemblée. Le peuple forme une grande assemblée qui vote les décrets. Chacun peut y prendre la parole. C'était la liberté fondamentale pour les Athéniens. C'était la liberté de prendre la parole devant les autres. Donc ça, c'est la démocratie athénienne. Après, donc notre régime de gouvernement, on l'appelle démocratie, certains disent indirecte. Elle se caractérise par l'élection, premier point, et non pas le tirage au sort, l'élection d'un corps de représentants. Et quand on regarde en fait terme à terme, si on compare les deux régimes, on se rend compte que ils utilisent des outils pratiques qui sont très différents et même qui ont des visées, je dirais presque opposées. Donc, et d'ailleurs, le mot démocratie est revenu en 1848 dans la constitution de la Deuxième République. Et Pierre Rosanvallon, qui dit que le mot revient moins pour qualifier finalement la pratique politique que pour qualifier un régime qui aurait pour fin idéologique la liberté et l'égalité. Donc, si on parle de pratique politique, ça a très peu de sens de qualifier nos régimes de démocratie fut-elle indirecte, en fait.
C'est-à-dire que ce qui s'est imposé en Occident sous le nom de démocratie représentative n'a pas été perçu à l'origine comme une des formes possibles de gouvernement démocratique, de démocratie par le peuple.
Les révolutionnaires étaient très clairs là-dessus, ils appelaient ça, très clair, c'est plus compliqué que ça, mais ils appelaient ça un gouvernement représentatif. C'était le mot à l'origine qui servait à qualifier la pratique politique, puisqu'il s'agissait d'élire des représentants, donc on appelait ça un gouvernement représentatif et pas du tout une démocratie.
D'ailleurs, Rousseau condamne la représentation politique, je crois, très fermement.
Oui, d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans Rousseau, c'est qu'il condamne la représentation politique, mais il dit par ailleurs, dans le même livre du Contrat social, la démocratie est impossible. C'est-à-dire que, en fait, non seulement le régime représentatif ne serait pas démocratique, mais même dans une aristocratie antique ou même dans une royauté antique, dans une aristocratie antique comme celle de Sparte ou la République romaine, le peuple est régulièrement en assemblée et vote les lois.
La représentation, est-ce qu'elle est simplement une réponse à l'impossibilité de rassembler des citoyens dans des États qui sont devenus trop grands ?
Alors, de l'avis de la parole des révolutionnaires, alors on peut regarder ce qu'ils disaient eux. Il y a quelqu'un comme Sieyès qui disait il faut appliquer à la chose politique la division du travail. Tout nous crie de faire de la politique une profession particulière, il disait. Il y avait ce premier aspect, division du travail, et l'autre, c'était parce que les représentants, je le cite, des représentants bien plus capables que les citoyens de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté, la volonté des citoyens. Donc, il y a l'idée que, les représentants, l'élection permet de sélectionner des notables, donc des gens qui ont des lumières, et qu'ils seront bien plus à même que chacun de définir l'intérêt général ou l'interprète.
Ce qui est aussi l'argument qui consiste à dire que les gens sont mis au travail, et donc ils produisent des richesses, ils n'ont pas les loisirs pour s'occuper de politique.
Et sur ce point-là, on peut dire, en comparer la révolution, c'est peut-être vrai, vu la productivité du travail agricole, c'est peut-être vrai qu'on avait besoin que tout le monde soit au travail. On dit souvent les Athéniens avaient des esclaves, ou peut-être, ils travaillaient, les citoyens athéniens travaillaient dans leur majorité. Peut-être que la productivité du travail agricole pendant la révolution était trop faible pour permettre à tous de faire de la politique. La productivité du travail en 200 ans, elle a bien changé et les problèmes ne sont plus les mêmes. Maintenant, on a bien sûr le temps de faire de la politique.
Mais en même temps, on peut dire quand même que les républicains qui sont adeptes du gouvernement représentatif, ils pensent quand même que celle-ci a à voir avec la démocratie. C'est vrai que tout ne sépare pas les deux régimes.
Je pense que ce qui caractérise le gouvernement représentatif dans notre histoire moderne, c'est d'avoir mis en place un état de droit et d'avoir repris plutôt cette idée romaine que les lois doivent s'appliquer de la même manière à tout le monde. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est la grande avancée par rapport à 17e ou 18e siècle, enfin, avant la Révolution, la mise en place d'un état de droit.
Parce que l'élection, c'est la principale source de légitimité politique, mais ça permettait aussi, cette élection, de mettre un terme à la transmission héréditaire du pouvoir. Et ça, c'est quand même très important, non?
Oui, certes. En fait, il y a en effet une aristocratie qui était héréditaire et qui a été mise à bas, mais finalement remplacée par une aristocratie élective. Une aristocratie, c'est bien les meilleurs qui gouvernent. Or, une manière de choisir les meilleurs peut être de les choisir par l'élection, par suffrage.
Alors, Laurent-Henri, Philippe-Alexandre Pouy, votre article dans Libération énonce les vraies raisons du succès du processus électoral dans les démocraties représentatives, et donc le droit romain y est pour quelque chose, hein, si j'ai bien compris.
Oui, enfin, les Romains élisaient des gens pour discuter des lois avec le corps aristocratique. Enfin, ils ont toujours, malgré tout, voté les lois directement. Ils ne se sont pas fait représenter pour exercer leur pouvoir législatif.
Et peut-être, vous faites peut-être avance, c'était une hypothèse de Bernard Manin qui était de dire qu'il y a un principe du droit romain qu'il appelle, les historiens connaissent bien visiblement, ils appellent ça le QOT, c'est du latin, je ne parle pas latin, je ne le citerai pas en latin, mais c'est ce qui s'applique à tous, doit avoir été considéré et approuvé par tous. Mmh. Alors il faisait un lien entre ce principe du droit romain qui aurait été influent et l'adoption, en fait, le triomphe de l'élection. Parce qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que justement, la possibilité de tirer au sort les représentants n'a jamais été discuté par la Révolution française. Or, Rousseau, qui était considéré par certains comme l'étoile polaire et qui a été lu par les lettrés qui étaient dans les assemblées, il dit très clairement, il lit directement l'élection à l'aristocratie, un régime aristocratique, et le tirage au sort à la démocratie. Or, les révolutionnaires, certains prétendaient déjà, commençaient à prétendre vouloir essayer de faire une démocratie, donc c'est ce qu'ils disaient, mais ils n'ont jamais discuté la possibilité de faire le tirage au sort, et l'élection a triomphé. Donc, le droit romain, selon Bernard Manin, une hypothèse, ce serait que ce fameux principe du droit romain aurait eu une influence.
Mais en même temps, l'important, c'est de vouloir sélectionner une aristocratie, mais on déclare quand même le peuple souverain, et donc c'est là qu'il y a le leurre, non?
On peut. Il y a une phrase que Laurent a trouvé chez un de ces révolutionnaires, je pense qu'il était...
C'est Clermont-Tonnerre.
Oui.
Il dit, c'est peut-être la plus ingénieuse invention politique que celle d'avoir déclaré souveraine une nation en lui interdisant tout usage de sa souveraineté. Voilà l'effet de l'adoption d'une constitution représentative. Donc ça, c'était en 1791, à propos de la constitution de 1791.
Mais on peut parler également de notre actualité très récente, il y a 2 ans... il y a eu une procédure qui, elle, est démocratique, peut-être la seule procédure réellement démocratique dans notre régime, qui est le référendum. La question du traité constitutionnel a été posée aux citoyens français, ils ont répondu non à ce traité, et 2 ans plus tard, les représentants du peuple contredisent la volonté populaire.
Aristote, lui, liait clairement élection et aristocratie, et il associait la démocratie au tirage au sort. Mais le tirage au sort, aujourd'hui, paraît en effet une sorte d'incongruité quand on ne réfléchit pas trop en avant. Mais déjà à l'époque, par exemple, Socrate raillait le tirage au sort, non ? Cette façon de vouloir surgir finalement le dieu du hasard.
Les philosophes, à partir de Socrate et Platon en particulier, sont des antidémocrates. C'est-à-dire qu'ils se mettent plutôt du côté de l'oligarchie, et même pour Platon, le rêve serait de ne pas avoir à s'occuper des affaires politiques et de créer une cité qui permette à vivre en philosophe. Donc les philosophes auxquels on se réfère beaucoup ont été en fait des adversaires de la démocratie athénienne, et même d'ailleurs dans les philosophes des Lumières, où souvent lorsque l'on se réfère à l'Antiquité grecque, c'est plutôt Sparte qui est le modèle, plutôt que la démocratie athénienne.
En même temps, lorsqu'il y a tirage au sort, il y a aussi élection, et ça peut-être il faut le souligner, pour tous ceux qui demandent une spécialité, hein, que ce soit la stratégie pour la guerre ou la connaissance des finances.
Les Athéniens savaient bien qu'en effet, il y a certaines fonctions où il faut vraiment que quelqu'un soit soit spécialiste, soit capable de réunir autour de lui des gens. Et donc, il va y avoir des élections de charges particulières qui vont être faites. Maintenant, même sur le plan du tirage au sort, il ne tirait pas au sort parmi tous les citoyens. C'était simplement
il fallait
les citoyens
se porter candidats, non ?
Voilà, les citoyens qui se portaient candidats, qui pouvaient être tirés au sort. Et ces citoyens-là savaient qu'à la fin de leur mandat, de leur charge, qui durait un an la plupart du temps, ils allaient devoir rendre des comptes. Et ils allaient rendre des comptes devant l'Assemblée, et ils risquaient des amendes, et ils pouvaient même risquer le bannissement. Ils prenaient en fait un risque en se portant au tirage au sort, si jamais ils ne faisaient pas les choses comme ils devaient les faire, ou s'ils n'avaient pas les capacités pour remplir cette charge, et que pourtant ils se soient portés au tirage au sort.
C'est-à-dire que le sort était conçu comme la meilleure garantie d'égalité des chances d'accès aux charges.
Il semblerait que ce soit plutôt, disons oui, d'une certaine manière, mais c'est ce qui était mis en avant par les antidémocrates. Ça. Ce que mettaient en avant les démocrates, c'était l'outil anticorruption, fondamentalement. Et alors l'enjeu de la redécouverte moderne du fonctionnement politique athénien, alors je le rappelle, hein, c'est la deuxième partie du XXe siècle qu'on comprend notamment à quoi sert le tirage au sort, c'est que c'est un terrain, les Athéniens ont utilisé à la fois l'élection et le tirage au sort, donc c'est un terrain idéal pour comparer les deux pratiques et savoir à quoi sert l'une, à quoi sert l'autre en fait. On peut rappeler par exemple qu'au XIXe siècle, il y a Fustel de Coulanges qui a écrit un livre, un café date qui s'appelle La Cité Antique, où il explique que le sort en fait permettait de... La manifestation du sort était une manifestation divine en fait. Et quand on a fait des fouilles archéologiques au XXe siècle, hein, on a retrouvé plusieurs dizaines d'années après le livre de Fustel de Coulanges, on a retrouvé dans l'agora athénienne des fragments de machines à tirer au sort en pierre. Donc bon, et on avait retrouvé d'autres textes, notamment la Constitution d'Athènes. Donc si les Athéniens avaient fabriqué des machines pour tirer au sort, on peut imaginer des machines relativement ingénieuses. Hein, on peut imaginer que ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment à tirer au sort pour tirer au sort et non pas pour avoir à travers une machine une manifestation divine. Quoi. Donc et on peut rappeler aussi que les gens qui étaient élus devait aussi rendre des comptes. La reddition des comptes est une institution fondamentale. Non seulement ils étaient attaquables à tout moment pendant leur mandat, qu'on ait une charge élective ou une charge par le sort, mais les stratèges qui étaient élus risquaient généralement gros lors de la reddition des comptes.
Parce que Fustel de Coulanges, j'avais la vision d'une trace de l'héritage de l'âge archaïque avec un caractère presque sacerdotal lié à ce tirage au sort. Mais pour l'Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècle aussi, dont vous parlez dans votre texte, la représentation a vraiment un caractère oligarchique. Il s'agit vraiment de s'appuyer sur des gens qui ont des privilèges, qui ont un statut social, et on respecte la hiérarchie terriblement.
Oui, je connais assez mal ce qui s'est passé en Angleterre. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est de là en fait que nous vient le régime représentatif qui va triompher dans tout le monde occidental.
On peut peut-être rappeler le cas américain. Les Américains, pendant leur débat sur la Constitution adoptée, semble-t-il, ils avaient émis deux alternatives. Une première alternative, où on avait un corps de représentants à un petit nombre, quelques centaines de personnes, et une autre alternative qui était un corps où il y avait par contre plusieurs milliers de personnes. Alors les différences entre les deux, les tenants d'un corps réduit, c'était... Un corps réduit, ça veut dire que chaque personne, pour se faire élire, va devoir se faire élire par un grand nombre d'électeurs, puisque 500 divisé par la population totale, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. Et c'était une manière de s'assurer que finalement seul un notable peut se faire élire, par exemple dans une grande circonscription, parce qu'il faut avoir du capital social, il faut connaître des gens, avoir des relations. Et les tenants de l'autre partie, qui était de dire bon bah il faut avoir un corps de représentants beaucoup plus nombreux, c'était pour pouvoir avoir un corps de représentants qui mime le peuple, c'est-à-dire où on aurait à la fois des notables, mais aussi des ouvriers, et leur laisser la possibilité de se faire élire. C'est-à-dire, par exemple, des circonscriptions de plusieurs centaines de personnes. On peut imaginer que dans un quartier ouvrier, mettons, qu'il y ait de plus grandes possibilités pour faire campagne, pour se faire connaître, etc. L'un était présenté comme pas démocratique, même, mais plus proche du peuple, et l'autre était présenté comme une solution aristocratique. On allait sélectionner de notables. Ils ont choisi ça en ces termes et en connaissance de cause.
Voilà. Et avec l'idée que les élus devaient avoir un rang social supérieur aux électeurs.
C'était perçu comme étant la solution la meilleure. Voilà, bon, au moins c'est clair.
Alors vous avez rappelé tout à l'heure qu'au 19e et même au 20e siècle, la dimension inégalitaire et aristocratique était passée finalement inaperçue, parce qu'on parlait de l'avènement du suffrage universel qui renforçait l'idée que le contenu du gouvernement représentatif était réellement démocratique.
Oui, ça a été la manière de dire, voilà, nous allons vers la démocratisation de nos régimes, mais c'est bien l'idée qu'il faut que l'ensemble de la population soit, voilà, il y ait eu par le suffrage, la population a exprimé sa volonté, elle a dit, voilà, c'est moi qui ai choisi ses représentants. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien à dire de la politique qui se fait jusqu'à la prochaine élection. Donc il y a cette idée que on fait participer les gens à la politique. En fait, ils acceptent la politique qui est menée en leur nom, sans avoir de moyens d'action dessus.
On a pris l'habitude de parler à propos des démocraties, de démocratie indirecte, qui serait donc une variante de la démocratie athénienne, qui serait une démocratie directe.
Oui, alors j'en ai parlé un petit peu au début. Si on se sert de ces deux mots comme des manières d'analyser la pratique politique, si on compare la manière dont pratiquaient les Athéniens à la manière dont on pratique entre guillemets la politique en France, par exemple actuellement, ce sont des traits opposés. On utilise l'élection, ils utilisaient massivement le tirage au sort. On ne forme aucune assemblée. Les citoyens s'assemblaient. Nous n'approuvons pas les lois. Ils votaient les lois par l'intermédiaire d'un corps de nomothète, mais c'était comme si le peuple approuvait les lois. Le citoyen avait un pouvoir réel, avait même un devoir réel. Nous n'avons, notre existence politique se limite à une fraction de seconde à glisser un bulletin dans une urne.
C'est du domaine du consentement.
Ah, c'est du domaine du consentement, et même pas de la pratique politique.
Vous pensez qu'on peut véritablement travailler à un retour au tirage au sort et aller en direction d'une fin de la pratique professionnelle de la politique ? Est-ce que c'est une utopie simplement pour vous ?
Le tirage au sort, déjà, pratiquement, est très facile à mettre en œuvre. Je crois qu'il y a deux phases. Il y a d'abord le peuple en assemblée. Cette capacité de réunir des gens qui parlent politique, qui parlent des décisions qui sont prises ou à prendre. Et ensuite, les magistratures, les charges, où là, le tirage au sort serait utilisé. Mais la première des choses, c'est bien... Est-ce que l'on peut faire en sorte que les lois, que le pouvoir législatif revienne aux citoyens ? Et ce n'est même pas une question de démocratie en soi. La méthode démocratique serait de demander à ceux qui le veulent de se présenter à un tirage au sort. Donc lorsqu'il y a une loi qui est proposée, on tire au sort un certain nombre de citoyens qui forment un jury. Et devant ce jury, les adversaires de cette loi ou ceux qui défendent cette loi avancent leurs arguments. Et au bout du compte, ce jury de citoyens vote pour ou contre la loi. Ça, c'est la forme démocratique du pouvoir législatif. C'est la forme que pratiquait Athènes au IVe siècle. Maintenant, je le répète, même dans les régimes qui ne sont pas démocratiques dans l'Antiquité, il n'en reste pas moins, même si ce n'est pas en assemblée populaire que les lois sont rédigées, discuter, il n'en reste pas moins que c'est toujours le peuple qui vote, en fin de compte, sur une loi, pour ou contre.
Alors, peu importe que le choix politique désigne un oligarque de droite ou de gauche, il n'y a pas à proprement parler de gouvernement démocratique, mais pour réinventer le principe de gouvernement, est-ce qu'il faut un retour des Grecs ? C'est en effet en Grèce que commence la politique, et faire surgir avec le tirage au sort le dieu hasard au cœur de la procédure démocratique produit assurément, je crois, un effet de vérité tout à fait décapant et un changement de perspective et une incitation à changer la pratique politique. Merci Laurent Henry, Philippe-Alexandre Pouy d'avoir, en citoyen exemplaire, su accorder les sciences dures et la recherche en démocratie.